Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. On fait le match 12e de la saison, comme chaque samedi soir. Vous le savez, le meilleur de l'expertise et du décryptage pour tous les publics. À 19h ce soir sur RTL, après la spéciale Joe Biden, président élu des États-Unis. Puis à 20h, RTL Foot, avec l'intégralité d'un très attendu Paris Saint-Germain Stade Rennais. Au menu, on refait le match. Tourelle est-il au bout de l'aventure? Villas-Boas est-il au bout du rouleau médiatique? Stéphane est-il au bout de son rêve d'accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions? À mes côtés, Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Sébastien Tarago, la chaîne Équipe, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
On fait le match VIP avec en studio un acteur opérationnel, comme on dit dans l'environnement du foot. Il s'agit de Karl Olive. Bonsoir Karl Olive.
Bonsoir Christian Olivier.
Ravi de vous accueillir dans studio et dans cette belle maison. Acteur opérationnel avec donc le foot pro, le foot amateur, vous en connaissez un rayon, vous êtes le nouveau membre du conseil d'administration de la Ligue représentant la Fédération Française de Football, vous êtes également le maire de Poissy dans les Yvelines, département qui accueillera le futur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Info résultat, match de 17h, victoire de Montpellier à Bordeaux 2-0, info Ligue 2, Clermont-Guingamp 0-0 et victoire de Grenoble face au Havre 2-1. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Le premier débat, messieurs, Karl Olive, je vous rappelle que vous êtes le maire d'hiver droite de Poissy, Joe Biden élu président des États-Unis. Il aura fallu attendre 4 jours pour avoir le verdict final. C'est beaucoup plus rapide à la Fédération Française de Football et à la Ligue du Football Professionnel.
Ah oui, maintenant c'est beaucoup plus rapide. C'est aussi beaucoup plus rapide, cher Christian Olivier, en France, dans nos séquences électorales, même si parfois c'est un petit peu plus compliqué. Mais enfin, la preuve qu'on sait aussi bien faire les choses dans notre beau pays.
Mais vous qui êtes un homme politique également, drôle de démocratie quand même les États-Unis. On n'est pas capable d'attendre que le dernier bulletin soit dépouillé avant de... Je connais, il y a les décalages horaires, les fuseaux horaires. Mais tout de même, on attend le dernier bulletin et ensuite on dépouille et on donne ça d'une seule traite.
Oui, puis une grande différence par rapport à notre beau pays, c'est un scrutin qui est différent puisqu'on est sur un scrutin indirect avec des grands électeurs. On a constaté ce soir que pour la première fois depuis George W. Bush, Trump ne sera pas celui qui aura été réélu pour un deuxième mandat.
En tout cas, les prochaines informations concernant Joe Biden dans le flash de 20h. Alors, vous avez dirigé le service des sports du groupe Canal, vous jouez de temps en temps au foot avec le variété de Jacques Vendroux, vous êtes le maire de Poissy, je l'ai dit, vous êtes désormais le membre du conseil d'administration de la Ligue représentant la Fédération Française de Football en remplacement de Michel Denisot. On va ouvrir on refait le match, toujours sous forme de débat bien évidemment, avec l'ami Sévrac, Tarago et Sanfourche, sur le sport amateur et le foot amateur. Deuxième confinement, celui-ci est en vrac, s'en sortira-t-il ?
Je pense qu'on mesure pas bien le fait que nos clubs amateurs sont en train de crever la gueule ouverte, Christian. Je regarde et je m'entretiens avec nombre de clubs et pas seulement en Île-de-France. Je vais vous donner un exemple. Le club de Plabennec dans le Finistère, 600 licenciés, 600 000 euros de budget, 38 000 euros par la collectivité locale, 450 000 euros pour aller chercher des sponsors et le reste par les licences. Le président, il est à l'agonie. Il est à l'agonie parce que les sponsors privés lui disent, cas de Covid, ça va être plus compliqué, monsieur le président. Notamment les licenciés dans ce club comme dans tant d'autres, dans le football d'entreprise, dans le football de National 2, dans le football amateur, commencent à dire, les parents, nous on veut un remboursement de licence, Covid, etc., etc., etc. Et pour l'instant, et ça c'est pas un sujet de la Fédération Française de Football, pour l'instant, l'État n'a pas encore dégainé sur des choses qui ne sont pas palpables. C'est-à-dire que là où il y avait des tournois, là où il y avait des buvettes, là où on avait les bénévoles, qui sont vraiment le cœur du moteur de ce football amateur, aujourd'hui, ces gens-là ne disent rien. Il y a moins de licenciés, évidemment. En France, Fédération Française de Football, c'est moins 2% ou 3%. On parlera peut-être d'autres fédérations qui sont à moins 20 ou 30%. Le sport en général, le football amateur en particulier, est en train de crever la gueule ouverte. Il faut absolument faire un appel à sauver ce sport, sinon on ne s'en sortira pas dans notre beau pays.
Philippe Sanfourche.
La question, en fait, c'est de savoir si ce constat qui est implacable, si on s'en tient simplement à des chiffres, si on estime que c'est uniquement financier, ou si on regarde un petit peu plus loin, et si on estime que dans la façon dont s'établit notre société aujourd'hui, c'est une question presque de santé publique. C'est-à-dire que les gamins qui jouent pas, les amateurs qui avaient l'habitude de se donner rendez-vous chaque week-end, cette petite bulle d'oxygène scène qui émerveille les gamins, les joueurs du dimanche depuis des années. Combien de temps ça va durer comme ça? Combien de temps on va pouvoir tenir les gens?
Ça interroge sur la place du sport en France,
Dominique Sévrac.
Ça interroge sur la place du sport dans la société française. Je pense que le sport n'est pas pris au sérieux en France depuis longtemps, pas spécialement par ce gouvernement.
Par les hommes politiques, avons un homme politique également.
Je pense qu'ils s'en servent parfois. Je l'ai vu sur la mise en examen de Karim Benzema, par exemple, qui a des choses ou pas à se reprocher dans l'affaire de la sextape. Mais ça a permis à des hommes politiques de se racheter une autorité à moindre frais en tapant sur Karim Benzema, qui est peut-être coupable. C'est un autre débat. Et donc, je pense que la place du sport n'est pas assez sérieuse en France. Et après, pour moi, la fédération, elle a d'énormes moyens. La fédération française, parce qu'on parle du foot amateur ici, on pourrait parler d'autres sports, mais parlons que du foot amateur. La fédération française, elle est double championne du monde.
Elle a opéré 30 millions d'euros sur la première vague de l'épidémie pour abonder justement au niveau
amateur. En ce moment, on rattrape du calendrier des matchs internationaux. On va avoir un France-Finlande la semaine prochaine. On a eu un autre match France-Ukraine qu'on a rattrapé. Cet argent des télés, il devrait aller directement, sans faire de démagogie, au monde amateur directement. L'équipe de France devra abandonner. Il y a quasiment plus de primes pour les joueurs, pour Mbappé, pour Griezmann, tout ça. Il n'y a que des primes d'image. Mais tout ça devrait partir automatiquement au monde amateur.
Et je rappelle que vous représentez la Fédération Française de Football au comité d'administration de la LFP, Carl Olive. Vous dites effectivement il faut retourner dans les stades parce que le sport amateur et le foot amateur sont en train de crever. Mais alors pourquoi la Fédération Française de Football a-t-elle arrêté les compétitions?
Alors moi je voudrais d'abord faire une petite peut-être équation qui dépasse l'équation arithmétique et financière dont on parlait. Je rejoins ce que disait Philippe Sanfourche. Aujourd'hui on a un pilier qui fonctionne parfaitement en France. La famille, l'école et le sport. Le fait de couper et d'interdire et parfois, presque gratuitement, sur des éléments qui ne sont pas des éléments scientifiques. Le sport, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que notre société va très mal. Et notamment, nos jeunes vont très mal. Pourquoi ça flambe aujourd'hui dans les quartiers populaires, etc. C'est aussi un élément de réponse par rapport à cela. Il faut quand même qu'on nous explique pourquoi on autorise, par exemple, à faire du sport scolaire, mais que nos footballeuses et footballeurs amateurs ne peuvent pas aujourd'hui pouvoir aller faire du sport à distanciation sociale en respectant les gestes barrières. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'était pour répondre à Philippe. Pour répondre à Dominique Sévrac, alors pardon, mais là, c'est l'exception qui confirme la règle. Poissy, 40 000 habitants, 10 000 sportifs. Je donne 2 heures de sport à mes agents dans le cadre du temps de travail. J'ai baissé l'absentéisme de 750 jours, ce qui m'a fait notamment générer 100 000 euros d'économie, mais surtout avoir des agents qui sont mens sana in corpore sano. Donc ça, c'est juste, je ferme la parenthèse. Une fois qu'on a fait ça, on a fait la même chose avec l'hôpital de Poissy-Saint-Germain. Donc, c'est pas un faire-valoir, c'est pas une histoire de politique politicienne, la preuve que non, je crois aux vertus évidemment du sport, et moi j'entends bien porter un message pour que les maires puissent ouvrir leurs installations, tous les maires de France qui nous écoutent.
Et Karl, vous le savez, la politique en France, elle est souvent locale. Moi, je parlais au niveau national.
Mais on parle bien du territoire, mais il faut que ça parte du territoire, Dominique.
Avant de tourner une première page de publicité, je renouvelle ma question. Vous savez, les journalistes de sport s'accrochent toujours à leurs questions quand les hommes politiques ne répondent pas aux questions des journalistes de sport. C'est peut-être la différence avec certains confrères du journalisme politique.
Ah bah vous allez vous faire les amis.
Ce n'est pas grave. Je répète ma question. Pourquoi la Fédération Française de Football, avec tout l'argumentaire que vous mettez en place, pourquoi cette fédération a-t-elle stoppé les compétitions?
Parce que la Fédération Française de Football, ça ne vous aura pas échappé, Christian Olivier, et c'est pas de la langue de bois, est sous tutelle d'un ministère qui s'appelle le ministère des Sports, lequel est lui-même sous tutelle de l'État, avec un organisme qui s'appelle le ministère de la Santé. Et donc,
Donc Noël Le Graët n'a pas voulu se fâcher avec le gouvernement et avec le président de la République.
Non, mais Noël Le Graët est un représentant indirect de son ministère des Sports et répond aux décisions du ministère des Sports.
Est-ce qu'il a bien défendu le football amateur?
Je pense que Noël Le Graët a eu raison très tôt sur le fait d'arrêter les compétitions, parce que aujourd'hui, quand on visite, comme je l'ai fait encore ces 2 dernières journées, les services dans nos hôpitaux, on ne mesure pas dans quel état sont les personnels de nos hôpitaux, et donc dans quel état aujourd'hui le pays dans ses conditions sanitaires se retrouve. On est en train de déprogrammer. Ça veut dire que si vous êtes par exemple sur un grand soin, une chirurgie à faire, ou je vais même plus loin, une chimiothérapie ambulante, eh bien peut-être qu'on vous dira, je suis désolé, on ne peut pas la faire parce qu'il y a des urgences avec le Covid-19.
Sébastien Tarrago.
Oui, mais je suis ravi d'entendre cela parce que ça signifie que la situation est plus complexe que celle que vous dépeignez au départ. Je suis d'accord avec vous sur le rôle social du sport, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que le sport n'est pas pris au sérieux en France. Je suis d'accord avec tout ça, mais c'est plus complexe que tout ce que vous dites, pardon, à mes yeux. il y a beaucoup de sous qui ne rentrent pas dans les clubs, mais il y a aussi des sous qui ne ressortent plus. On ne paye plus les arbitres, on fait des économies aussi, donc c'est pas, faut quand même aborder les sujets sérieusement. Quand je vous écoute, on a l'impression que c'est juste de l'argent qui ne rentre pas. Il y a aussi de l'argent qui ne sort pas. Donc il faut quand même faire
L'argent qui ne sort pas.
Mais quand vous avez des arbitres, oui. Les clubs les payent, par exemple. Mm-hmm. C'est des sous. Mm-hmm. Il y a des déplacements à organiser.
Il n'y a pas de match, là, de toute façon. Donc tu ne payes pas les arbitres.
Et donc ce sont des sorties en moins. Mm. Vous comprenez bien que sur un budget de 100 000 euros, par exemple, ou de 10 000 euros, vous avez des rentrées et des sorties. Mm-hmm. Alors, il y a moins de rentrées, très peu de rentrées, mais il y a aussi des sorties en moins. Donc il faut voir les choses.
L'impact
un petit
est
peu.
30%.
Oui, moins de dépenses. Si
l'impact est 30% dans les budgets des clubs.
Non, mais.
Moins 30%.
Ben voilà.
Quand on fait l'équilibre, moins 30%.
C'est pas pareil que lorsqu'on établit une situation comme si tout était perdu.
La balance est déséquilibrée. Derrière une première page de publicité, reviendrons donc sur le fonctionnement du football amateur, sur les installations qui sont plus ou moins fermées. Et puis tiens, je vous poserai la question, vous pouvez commencer déjà à préparer la réponse, Caroline, je vous poserai la question de savoir si vous étiez d'accord avec Jean-Michel Aulas pour arrêter le championnat précédent avant le premier confinement ou pendant le premier confinement. A tout de suite, si on fait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec Dominique Sévrac, Sébastien Tarrazon, Philippe Sanfourche et notre invité VIP, Karl-Olive Maire de Poissy, membre du conseil d'administration de la Ligue du football professionnel.
J'ai la chance d'être secrétaire général adjoint de la Ligue.
En plus.
Je ne sais pas si c'est en plus.
Ça s'appelle un cumul, ça.
Ouais. On est limité.
Ça veut surtout dire qu'il participe au conseil d'administration et au
cœur du réacteur. Voilà. C'est la raison pour laquelle il est présent dans ce studio,
car il est
au cœur du réacteur. Jean-Michel Aulas a-t-il eu raison de se lancer dans sa croisade du premier confinement sur le fait qu'il ne fallait absolument pas arrêter le championnat. Championnat arrêté par la Fédération française de football.
Si on est capable de donner l'ordre des chevaux après la course, j'ai envie de dire oui. Sur le fond, je pense qu'il avait raison. Sur la forme, c'était compliqué parce qu'encore une fois, on dépend, et c'est pas de la langue de bois, on dépend aussi des conditions sanitaires qui nous sont indiquées par un conseil scientifique d'un côté, ce qu'on appelle les sachants, et par un conseil gouvernemental qu'on appelle l'État. Et donc, on est assujetti, quoi qu'on en dise, aux décisions de l'État. Et on le retrouve dans tous les domaines, y compris quand on a des cacophonies inextricables, comme on l'a vu la semaine dernière, je fais une petite digression, entre les commerces de proximité et les grandes surfaces.
Voilà. Dominique Sévrac, Sébastien Tarrago, Philippe Sanfourche, sur l'arrêt, on en a beaucoup débattu.
Il semble qu'aujourd'hui, les faits lui donnent raison à Jean-Michel Aulas, parce que là, on est reconfiné, le président Macron a reconfiné la France, et il n'y a jamais été question d'arrêter, par exemple, la championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Je n'en ai jamais entendu parler, il n'y a pas une voix qui s'est élevée pour arrêter ça et pour dire que ça serait une hérésie que ça continue. Parce qu'aujourd'hui, ils sont testés régulièrement, les joueurs, ils vivent dans des bulles, dès qu'il y a un cas, on isole, l'UEFA a donné ce règlement, pour moi, absurde, mais on joue jusqu'à 14 personnes sur la feuille de match. Ouais,
sauf qu'on n'avait pas les mêmes connaissances du dossier lors du premier confinement.
Voilà, parce que les connaissances, l'équipement en test, puisqu'on parle des tests, n'était pas le même au moment où la décision était prise.
Il suffisait de les commander. À l'époque,
mais
il
n'y en avait pas.
Didier Quillot était sur le point de commander des milliers de tests pour que le championnat reparte.
Donc on est bien d'accord qu'il fallait expliquer à la France entière que vous aviez commandé 50 000 tests pour faire jouer au foot, mais que par contre les soignants qui allaient tous les jours au charbon, ils n'avaient pas le droit d'avoir des tests.
C'est ce qu'il y a aujourd'hui, Philippe. Les soignants, ils vont tous les jours au charbon et les tests.
C'est quand même moins.
Là, Mbappé et Neymar, ils sont testés tous les deux jours.
Alors,
aujourd'hui, ça ne choque plus personne 3 mois après, 4 mois, 5 mois après que Neymar ou un joueur d'Angers ou de Marseille ou de Bordeaux soit testé tous les deux jours.
Alors, l'information, c'est que la Ligue de football professionnel a décidé de faire appel à un appel d'offres pour justement contracter avec des laboratoires pour faire en sorte que ça soit effectivement plus rapide. Ce qui n'était pas le cas, c'est vrai, lors de la première vague. Et moi, je veux donner aussi, je dirais, un point de vue objectif sur le terrain. J'invite aussi, pardon de le dire, mais les maires, les présidents de clubs et les directeurs d'hôpitaux, il y a souvent des hôpitaux dans un environnement assez restreint chez nous, et tant mieux, à mettre en place des unités sportives. Elles existent quasiment dans tous les hôpitaux de France pour créer un partenariat avec ces clubs. Parce qu'à un moment donné, on va voir la Coupe de France. Bordeaux va jouer contre Chatou dans les Yvelines. Football amateur, aujourd'hui pas d'obligation de tester. Demain ça sera le cas, sinon il y aura une inégalité de traitement et ça sera la porte ouverte à des clusters.
C'est la raison pour laquelle notamment mais pas seulement la Coupe de France avec toutes les autres compétitions ont été stoppées parce qu'il y a eu des compétitions qui sont maintenues. Bon, il y a la Ligue 1, la Ligue 2, le National maintenu, la D1 féminine et même le football.
Mais ce que vous dites sur les tests,
c'est important.
Qui paiera les tests de Chatou? Qui va payer ces tests pour Chatou?
Ah ben c'est sûr que ça c'est un sujet. Je pense que ça reviendra de près ou de loin directement à la Fédération française, comme ça revient au club dans les compétitions de championnat.
Sébastien Tarago.
Ce que vous dites sur les tests me donne un peu d'eau à mon moulin par rapport au sport amateur. C'est que, encore une fois, moi je suis comme vous, je préférerais qu'on puisse faire du sport. Sauf que les tests auxquels ont accès Kylian Mbappé, Neymar et Marquinhos tous les deux jours, les gens qui pratiquent par exemple le football amateur ne peuvent pas les passer. Ils ne vont pas pouvoir passer tous les deux jours des tests. Ce n'est pas possible. Donc, la réalité du sport amateur est tout à fait différente du sport professionnel, évidemment.
Et
c'est plus difficile à mettre en place.
Et en même temps, Carlo Olive, les stades sont fermés, les installations sportives sont fermées. De toute façon, personne ne peut aller à un kilomètre, au-delà d'un kilomètre de son domicile, ne peut aller faire du sport actuellement.
Alors oui, à titre personnel, pour aller s'aérer, marcher, courir, faire des pompes dans une structure à un kilomètre à la ronde.
Pour les équipes également, les stades sont fermés.
Non. Alors non, les stades peuvent ne pas être fermés. Moi, typiquement à Poissy, mes stades sont ouverts, mes gymnases sont ouverts, les piscines sont ouvertes, parce que il peut y avoir, par exemple, du sport scolaire. Mmh. Et pardon, je le dis. Et là encore, je pense que c'est un message qui, j'espère, sera bien entendu avec des collègues maires de toute la France. Ouvrons nos installations. Faisons en sorte de respecter les gestes barrières, parce que quand quelqu'un est en bonne santé, eh bien, il y a moins de risques d'avoir un virus qui circule et on est bien mieux dans sa tête. Encore une fois, le pilier du sport comme vecteur, catalyseur de pouvoir s'aérer et aérer l'esprit est bien plus profitable.
Juste que je comprenne bien, les gens de ta commune ont le droit d'aller à la piscine ? Ou c'est juste pour les enfants ?
Non, c'est encadré, mais typiquement si on parle de football, moi, mon équipe de National 2, par exemple, si elle souhaite s'entraîner, elle vient s'entraîner. Et je ne rentre pas dans les détails des contrats
fédéraux. Ça va contre les idées reçues, parce qu'on a tous l'impression que les stades sont fermés, que les joueurs amateurs, même à bon niveau...
Il y a aussi le sport sur prescription médicale, vous avez des gens qui sont obligés d'aller à la piscine.
Et moi, tous les maires devraient être derrière.
Je suis heureux de cette invitation, Christian Olivier, parce que je le dis encore, les présidents de clubs de football qui nous entendent, appelez vos maires en leur disant, il n'y a rien qui est écrit aujourd'hui qui vous oblige à fermer vos installations sportives.
Et c'est utopique d'imaginer que la fédération paye pour les 2 millions de licenciés français des tests tous les deux jours? C'est utopique d'imaginer ça?
Non, il n'y a rien d'utopique, Dominique Sévrac. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on regarde dans les tiroirs respectifs des lignes budgétaires. Et ça dépend effectivement du ministère de la Santé.
19h29, on fait le match jusqu'à 20h. 20h, 23h, RTL Foot avec notamment, et pas seulement, l'intégralité d'un alléchant et très attendu Paris Saint-Germain, Stade Rennais. Derrière la publicité, restez avec nous. On parlera des affaires du football français, de Média Pro. On parlera également du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain qui va s'installer dans les Yvelines. Et puis on va parler également de la semaine quand même, la semaine du football français avec les trois questions posées dans ce sommaire. Tourelle est-il au bout de l'aventure médiatique? Villas-Boas est-il au bout du rouleau médiatique? Rouleau, c'est l'aventure sportive, Tourelle. Et Stéphane est-il au bout de son rêve d'accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions? À tout de suite.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On fait le match avec Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, et Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL, invité VIP ce soir. Carlo Olive, membre du comité du conseil d'administration de la Ligue du football professionnel, qui représente notamment la Fédération française de football. La Fédération française de football et la Ligue qui discutent toujours du dossier Média Pro. Rien n'est réglé, les clubs s'endettent. Carlo Olive, comment on réagit à la Fédération actuellement? Est-ce qu'on est inquiet?
On est inquiet parce que, alors, je dis juste en amont, qu'on a signé une clause de confidentialité au niveau de la AFP à la demande du président Le Brun pour être très confidentiel sur le sujet.
Donc vous allez tout nous dire ce soir.
Donc je dis juste, ça c'est une très très belle idée, encore faut-il que rien ne sorte. Quand je vois dans un grand diffuseur de presse qui est sorti hier, je me demande si on n'est pas Bernardo dans Zorro parfois.
Il y a des membres à la Ligue qui sont plus bavards que d'autres.
Je suis très remonté par rapport à ça parce que on parlera peut-être du Paris Saint-Germain. Du camp d'entraînement du Paris Saint-Germain. Pendant 6 mois, on a été deux à le savoir, on n'a absolument rien dit. C'est certainement parce qu'on a été discret que le PSG nous a fait confiance.
Mais ça veut dire que les présidents sont bavards ou les présidents ont intérêt à laisser fuiter?
Je dis absolument pas que ça vient de la Ligue. Je constate simplement qu'il y a des choses qui se discutent au sein d'un conclave qui est organisé par le président Labrune et pour lequel on nous demande spécifiquement, très honnêtement, de la fermer. Et c'est bien que tout le monde respecte de la fermer. Alors je ne parle pas forcément du bureau de la Ligue, peut-être que ça vient aussi de l'organisme de Média Pro. Hein, mais
non.
Voilà.
Sébastien Tarago.
En général, quand on tout le monde sait que ça ne vient pas de Média Pro. Et donc, on sait bien que la cacophonie à laquelle on a assisté pendant le premier confinement au sein du football français, elle existe, elle existera toujours. Mais c'est bien d'essayer de la combattre.
Je suis très naïf, j'arrive humblement sur la pointe des pieds en tant que secrétaire général adjoint à la Ligue de football professionnel, mais je suis très remonté parce que il me semble que quand on est dans le sport, quand on est dans l'entreprise, quand on est sur des modèles qui entraînent des milliards, quand il y a une décision qui est prise, il faut la respecter.
Alors sans entrer dans au cœur du réacteur nucléaire, est-ce que ce dossier va se régler ou devant les tribunaux ou est-ce qu'il va se régler d'une autre façon avec un autre diffuseur? Je rappelle que vous avez été patron des sports du groupe Canal.
J'étais directeur même de la programmation, Christian Olivier. Je dis ça parce que je participais justement à la rédaction des contrats pour l'obtention des droits. Je me souviens, on a refait deux avec Michel Denisot, notamment, que nous avions emporté. On était vraiment dans une culture, là pour le coup, dans une culture et dans un contrat gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il y avait des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'en face de nous, il y avait la Ligue, lorsque j'étais à Canal, et en face de la Ligue, il y avait à la fois Canal, mais on pouvait aussi avoir non pas BIN à l'époque, mais TPS par exemple, et les contrats sont très respectés. Simplement, ce que je dis, c'est que quand on signe un contrat, évidemment qu'il faut s'engager à les respecter. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, et ça c'est mon opinion personnelle, ce dossier évoluera avec, je pense, une intervention directe ou indirecte du sommet de l'État et je pense du président de la République, et je ne vois absolument pas comment le président Macron laissera tomber, c'est un bien grand mot, entre guillemets, le football français, parce que malgré tout, il faut le dire, le football français est en danger, son économie est en danger, on a passé beaucoup de temps sur le football amateur, mais évidemment qu'il y a un signal d'alarme qu'il faut tirer.
Alors c'est pas une moquerie, hein, mais qu'est-ce que le président Macron, face à un groupe sino-espagnol, sino quoi, il est sino-espagnol, Mediapro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler l'actionnaire chinois avec son téléphone, il a sans doute un smartphone.
Vous savez, Dominique Sévra, qu'à l'époque, à Canal, rappelez-vous, et vous étiez très bien concerné, très averti, je me souviens, à l'époque de Canal et de la crise du cinéma, il y a quelques coups de téléphone qui sont passés au sommet de l'État pour sauver le cinéma au travers du sport. Je pense qu'on ne sera pas loin de ça.
Oui, on sait de toute façon que dans tout grand groupe chinois, il y a aussi l'État qui est derrière et que donc il y a la possibilité de parler avec des gens d'égal à égal. Mais au-delà de la ventilation, de savoir si Mediapro va conserver ce dossier ou s'il peut y avoir un glissement vers d'autres diffuseurs, ça c'est les négociations qui sont en train de se mener. Mais sur la philosophie générale, est-ce qu'on a aujourd'hui conscience que le produit est dégradé, il faut dire le terme, et qui peut donc avoir une valeur moindre, et donc une forme d'acceptation qu'il va falloir rogner sur ce fameux contrat, avec le diffuseur actuel ou un autre? Ou est-ce qu'on est toujours dans l'idée qu'il va falloir faire respecter cette somme et qu'on ne bougera pas d'un iota?
Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Que le produit soit dégradé, oui, de fait, comme notre société est dégradée. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut donner de la lisibilité par rapport à ça. Vers deux canaux. D'abord, le canot, pardon de le dire, on joue à huis clos, mais le canot des supporters. Je ne suis pas sûr que demain, si on reprenne normalement, il y ait autant de supporters qu'on en avait avant le Covid, premièrement. Deuxièmement, lisibilité de programmation. Je regardais encore tout à l'heure en venant, il faut quand même avoir un bel agenda écrit pour savoir sur quel support on est diffusé. Donc il faut absolument qu'on arrive...
Ça, c'est la Ligue qui l'a voulu, pardon.
Pardon ?
C'est la Ligue qui l'a voulu.
Ah mais je dis pas, et là moi je parle à titre perso, je suis arrivé après, après la signature du contrat. Mais
est-ce que cette Ligue a été inconséquente, voire imprudente, ou le contraire d'ailleurs ?
Je dis simplement qu'aujourd'hui, on a un exécutif qui a un savoir-faire exceptionnel, on l'a vu avec les montants qui avaient été attribués au départ. Il me semble qu'il faudrait qu'on aille plus loin pour le faire savoir. Il me semble qu'il faut aller plus loin en communication extérieure par rapport à ça. Sinon, ça va rester très trouble, on va avoir une nébuleuse et on va avoir une paupérisation malgré tout du football. Et comme elle est en train de se mettre en place au niveau du basket, vous avez certainement vu l'interview de Tony Parker ce matin.
Pour rembourser, Christian, sur les produits dégradés, c'est 10 à 15% de moins, en général, les ristournes que sont prêts à consentir les diffuseurs, les vendeurs de droits, et c'est pas 40 ou 50% comme je l'entends parfois. Ouais,
10 ou 15% de ristournes pour Mediapro, c'est la même chose pour BeIN, c'est la même chose pour Canal.
Oui, mais c'est pas 40 ou 50%.
On est d'accord. Je renouvelle ma question quand même, Carlo.
Potentiellement la même chose pour les abonnés.
Et pour les abonnés également.
Moi, je viens demander 20% de moins par rapport à mon abonnement.
l'ancienne direction de la Ligue a-t-elle été inconséquente ou imprudente ?
Moi, je dirais pas ça, parce qu'encore une fois, on est tellement pris par une pandémie qui était absolument inattendue, brutale, etc. Non,
mais ça n'a rien à voir avec le contrat qui a été signé.
Si, ça a à voir.
Non, c'est pas parce que la pandémie ne vous empêchait pas de voir si l'actionnaire sino-espagnol était...
En tout cas, c'est un des arguments de Mediapro aujourd'hui.
Ah bah, ça n'a rien à voir avec la pandémie.
Je dis simplement, je me garderais bien, moi, d'aller juger ce qui s'est passé en amont de cela. Je dis simplement que personne n'avait vu venir ce virus. C'est bien dommage, mais c'est ainsi.
Premier message sur les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot, avant de tourner une page de publicité et de parler du Paris Saint-Germain et de son nouveau centre d'entraînement, puis également de la fameuse semaine du football français.
Et son nouvel entraîneur, pas encore. Baptiste
Durieux.
Mediapro, toujours à la une, évidemment, des débats, y compris sur les réseaux sociaux. Alexis qui nous dit aujourd'hui, je ne sais pas si je dois m'abonner ou pas. Aucune confiance, aucune garantie, et je pense ne pas être le seul. Comment Mediapro peut survivre dans ce contexte? Et puis on en parlait également, Jean-Michel Aulas, c'est Hugo qui nous en parle. Il nous dit, le président Lyon, c'est l'inverse de son équipe. L'OL a une belle forme, des beaux joueurs, mais aucun fond de jeu. Le président Aulas, lui, a oublié la forme souvent, mais le fond, souvent, est très très juste. Et puis sur le football amateur, un message de Johan qui nous dit, j'apprécie que Carl Olive utilise des termes forts. Crever, la gueule ouverte, ce n'est pas une hyperbole, c'est la réalité. Et puis la Ligue 2, effectivement, la victoire d'abord de Grenoble de Buzyn face au Havre et le nul entre Clermont et Guingamp, 0-0. Dans les autres rencontres, on joue depuis 40 minutes. Auxerre et Amiens font pour l'instant match nul 0-0. Un partout entre Troyes et Chambly. Un partout également entre Caen et Nancy. Pau qui mène sur la pelouse de Châteauroux 2-0. Le leader, le Paris FC, qui mène 1-0 face à Dunkerque. Deux partout entre Toulouse et Valenciennes. 0-0 entre Rodez et Ajaccio. Et 2-1 pour Niort sur la pelouse de Sochaux.
Merci Baptiste Durieux, 19h40. Hein, on refait le match version légèrement raccourcie en raison de la spéciale Joe Biden, élu président des États-Unis. Avec donc maintenant et après la publicité, le centre d'entraînement, nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain et l'état du football français à l'aune des résultats enregistrés cette semaine en Ligue des Champions notamment.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match. Carl Olive, maire de Poissy, communauté d'agglomération qui va recevoir le Paris Saint-Germain et son centre d'entraînement. Vous êtes fiers, mais c'est dans combien de temps ?
Fin 2022, avec des travaux qui ont démarré depuis un an et demi maintenant, Christian. 250 millions projets privés, hein, 250 millions d'euros d'injectés, 1000 emplois pendant la durée des travaux. Passerelle évidemment évidente avec l'AS Poissy Football, on en parlait tout à l'heure. Hein, l'AS Poissy, c'est presque 800 licenciés et un travail formidable qui est fait par le président et ses équipes. Et c'est aussi des passerelles, je dirais, avec l'hôpital, c'est le football, mais également le judo et le handball. Et on a souhaité, auprès de Jean-Claude Blanc et ses équipes, qui a été exceptionnel dans ce dossier, Jean-Claude Blanc, avoir un cercle vertueux de l'économie locale, c'est-à-dire qu'au maximum, les forces vives du territoire sont appelées pour venir façonner ce camp d'entraînement qui va s'étaler sur 60 hectares.
Il utilise le mot territoire, c'est là qu'on voit que c'est devenu un vrai homme politique.
Non, c'est le territoire, parce que c'est le conseil général, c'est le conseil départemental
des villes,
la communauté urbaine, je vous connais, et également la région Île-de-France, les agriculteurs et les habitants.
Il va falloir que Paris Saint-Germain change de nom.
Absolument pas. Alors absolument pas. On m'a souvent posé la question. Moi, j'ai bien compris depuis le départ que d'avoir le Paris Saint-Germain sur notre territoire à Poissy était une marque exceptionnelle et je suis ravi que l'agrément reste à Saint-Germain-en-Laye chez les amis saint-germanois. Pour tout vous dire, on a même vendu à l'euro, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul centime de bénéfice sur cette opération.
Philippe,
en revanche, Porsche est arrivé avec Alfa Romeo en face pour s'installer. On n'a pas vendu à l'euro.
Philippe Sanfourche.
Carl Olive, on a vu des chiffres assez impressionnants du montant des investissements. On a vu quelques projets, maquettes, mais vous qui êtes au cœur du dossier, là, quand on nous explique que ça va vraiment être le centre d'entraînement le plus moderne et le plus grand du monde, c'est vraiment ça ?
Alors écoutez, j'ai travaillé à l'époque où j'étais journaliste à Aspetar pour les Jeux Asiatiques à Doha au Qatar en 2006. J'avais été impressionné par ce centre moderne incroyablement fonctionnel. Je peux vous dire que Jean-Michel Villemotte, qui est l'architecte qui a été retenu par le Paris Saint-Germain, et le projet que façonne le Paris Saint-Germain, avec encore une fois du circuit court, des essences, des producteurs sur site, etc. Oui, ça va être un centre exceptionnel. Il y a 16 terrains, il y a de l'hébergement, il y aura un hôtel, une clinique.
Des chambres pour les joueurs, pour les footballeurs.
Et
pourquoi je dis ça ? Là, ça va ravir sans doute Sébastien Tarrago, qui aime le travail bien fait, la qualité du travail bien fait, etc.
J'ai peur.
C'est-à-dire que les joueurs en France, peut-être pour une grande première, vont pouvoir faire une journée de travail, venir le matin à l'entraînement, prendre leur repas, faire une sieste, faire une seconde séance d'entraînement, et existe. Ensuite aller chercher les enfants à 17h à la sortie de l'école.
Mais ça existe quand même. Vous êtes pas gentil.
Ça existe en France.
Bah, à Lille, ils avaient fait construire.
Le seul club qui nous a fait une belle perf.
Ils avaient fait construire. C'était Marcelo Bielsa qui avait fait construire quelques cabanons avant de partir.
Non, mais c'est une vérité.
À Marseille,
c'est
si je ne dis pas de bêtises, à Marseille, on peut dormir.
Il y a quelque chose qui m'agace à lire l'équipe parfois et le Parisien, c'est de les joueurs qui disent à l'extérieur, à l'étranger, c'est toujours mieux. Les entraînements, c'est toujours plus professionnel, c'est toujours mieux. Mais bon sang de bonsoir, venez faire votre journée de travail, matin entraînement, midi repas.
Il y a deux choses.
Mais non, c'est important. Et il y aura ça à Poissy désormais.
Globalement, à l'étranger, ils n'ont pas le choix. Donc ils le font et d'un coup ils font comme s'ils trouvaient ça bien. Donc en France, il y a quand même des clubs qui sont moins forts quand même. Et puis il y a globalement, oui, un rapport au travail des joueurs français qui est pas forcément très important. Mais vous pouvez constater que tous les joueurs de très haut niveau, et on en a vu quelques-uns passer au Paris Saint-Germain au cours des dernières années, ne font pas des journées de travail de une ou deux heures. En général, ils en font un peu plus.
On a tous fait la sortie du camp des loges des entraînements avec des joueurs qui étaient pressés et ailleurs aussi, de ne pas répondre,
mais les choses évoluent,
de ne pas s'arrêter pour aller chercher le gamin à la sortie des classes.
Sur les très grands joueurs, les choses évoluent. Ils ont tous des cuisiniers, ils sont tous. Enfin, c'est des machines de haute précision. Je ne dis pas qu'ils sont tous irréprochables, mais ça n'existe pas. Mais globalement, moi je trouve qu'ils travaillent. Mais après.
300 millions d'euros, c'est sur fonds privés.
Sur fonds privés, entre 250 et 300 millions. Je ne vais pas parler du stade, il y aura un stade de 5000 places également, et également une école Rouge et Bleu, qui est une école de la deuxième chance en quelque sorte. Donc on a vraiment un projet social.
Vous savez, c'est une salle de presse ou pas ? Parce qu'en général, on n'est pas très bien accueillis.
Oui, je crois pouvoir dire qu'il y aura un très très bel auditorium également.
Bon, je crois qu'on peut faire la transition justement avec l'état du football français et ses résultats enregistrés cette semaine. Ça a été une catastrophe absolue, sauf pour Lille, et on a l'impression, messieurs, et là, Karl, Olivier, vous pouvez participer à ce débat également, mais je vais m'adresser à ceux qui ont peut-être participé ou qui ont été attentifs aux conférences de presse. On assiste vraiment à un pétage de plomb de Villas-Boas, à un pétage de Thomas Tuchel. Et franchement, je veux dire, Villas-Boas qui s'érigeait en champion de la communication la saison dernière, on ne le reconnaît plus.
Non, il est nerveux. Le fait est qu'il est nerveux. Mais globalement, et après je reviendrai sans problème sur Villas-Boas et Tuchel, mais globalement, je pense que la situation est exceptionnelle. Elle devrait nous inviter à un tout petit peu de compréhension. Et Dieu sait que moi, je peux être sévère et que les entraîneurs, lorsqu'ils s'expriment et qu'ils, à mes yeux, disent des choses un peu étranges. Mais je pense que cette saison est à part et restera à part, il faut l'espérer.
Et pour tout le monde, hein.
Oui,
pour tout le monde.
Mais il y a beaucoup de nervosité. Et effectivement, on est obligé de constater qu'André Villas-Boas, qui a, quand même, vous aimez bien ce mot, qui a enfumé pas mal de mots.
Moi
de monde. Oui, vous aimez bien ce mot.
Ça fait pas partie de mon vocabulaire. pas l'antenne, en tous les cas.
pas mal de monde depuis son arrivée, parce que au niveau du jeu, l'Olympique de Marseille, c'est pas nouveau que c'est faible. L'année dernière, c'était faible. Ils ont fini qualifiés pour la Ligue des Champions dans un championnat tronqué. Ok, mais ils étaient catastrophiques.
C'est pas qu'un problème de niveau, ça.
Pardon ?
C'est pas qu'un problème de niveau. C'est aussi un problème de est-ce qu'on a, ils ont le est-ce qu'ils mettent les ingrédients que nécessite, que requiert la Ligue des Champions ? J'ai l'impression que l'engagement, l'envie,
ne la détermination... Ne parlez pas de la motivation, surtout, Dominique. Non, c'est non, vrai qu'on ne peut pas imaginer à ce instant qu'il n'y ait pas un joueur qui ne soit pas motivé.
Ok, mais on peut avoir un minimum de concentration ou d'aimer le duel, le combat. Si on n'a pas le niveau technique, et sur le papier, on sait qu'ils n'ont pas le niveau de City, ils n'ont sans doute pas le niveau de Porto, on peut essayer de compenser par autre chose. Par une espèce de surplus d'âme, je ne sais pas comment on appelle ça, l'état d'esprit. Ça, ils ne l'ont même pas.
Donc ça c'est possible pour se transcender quand t'es contre une équipe avec laquelle tu peux te jauger, tu es dans la même cour. Quand l'Olympique de Marseille rencontre même Porto, qui est pas Liverpool ni Manchester City, il y a une différence technique qui est telle que de toute façon, ils ne peuvent même pas compenser avec ces arguments-là. Le troisième but que met Porto, dans quel film de science-fiction Marseille peut le mettre dans les 6 mois ou dans l'année qui vient ? C'est pas possible. Tout va trop vite. Tu prends chaque geste qui est décortiqué, c'est impossible. Donc en fait, le ratio est trop important, et donc Marseille ne joue pas dans la même cour. Donc ils peuvent pas avoir ce supplément
d'âme. Qu'est-ce qu'ils ont fait des 200 millions ? Parce qu'on parle d'André Villas-Boas, on nous invite à parler de lui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, McCourt et Hérault, depuis 3-4 ans qu'ils sont là, avec le champion de projet ?
Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ils ont recruté Strootman. Strootman, c'est 30 millions plus En salaire, ça coûte à un club autour de entre 12 et 15 millions d'euros une fois que vous avez toutes les charges sociales. Donc, sur 5 ans, tu feras 30 millions plus 12 fois 5, ça fait beaucoup d'argent. Dimitri Payet, c'est pareil. Florent Thauvin, ça coûte un peu de sous aussi parce que les salaires, c'est bien beau. On parle toujours des salaires, mais il y a un truc qui s'appelle les charges sociales pour les clubs. Et ça pèse lourd, notamment en France. Donc, ils se sont trompés et ils le payent et ils vont le payer longtemps.
Quand on voit quand même le niveau technique et surtout l'envie qu'on a vu avec les joueurs de Lille à Milan, c'est vrai que ce soit Lille, le PSG ou Marseille, on joue quand même dans le même championnat.
Donc on va parler de Lille dans un instant justement, mais aussi de Thomas Tuchel et du Paris Saint-Germain. Une pause, une nouvelle pause, 19h50, c'est sur RTL France et c'est On fait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
La dernière ligne droite d'On fait le match avec notre invité VIP, Carl Olive, le membre du comité d'administration représentant la Fédération française de football à la Ligue du football professionnel. On a parlé de l'Olympique de Marseille, on parle de Thomas Tuchel, fin de l'aventure sportive également pour Thomas Tuchel. Le tout est de savoir, Philippe Sanfourche, si ça va se produire pendant la séquence internationale ou à la fin de la saison.
C'est pour toi, ça.
Ça va vite.
C'est l'actualité, non?
Ah oui, mais bon.
Toi qui sais, Philippe?
Je ne sais pas si quelqu'un sait en ce moment sur ce dossier quand est-ce que le calendrier va évoluer.
Même Leonardo ne le sait pas. Hein. Mais c'est un vrai problème tout de même, parce que Leonardo, qu'on présentait comme la cheville ouvrière à tout faire, et donc a décidé, même Leonardo attend de savoir ce qui va se dire à Doha pour prendre une décision.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu d'état de grâce, que la fameuse finale de Ligue des Champions et le quadruplé de la saison passée ne lui ont pas donné un blanc-seing, loin de là. Il lui reste un argument, et qui n'est pas des moindres à Thomas Tuchel, c'est qu'il s'est beaucoup rapproché de son vestiaire la saison passée et notamment des joueurs qui comptent. Donc on sait que ce n'est pas les joueurs qui vont décider de la tenue en place de ce garçon, mais plutôt les joueurs avec lui.
Ces derniers tourments tactiques peuvent créer quand même une première petite fissure.
J'ai l'impression qu'il est fâché d'être en fin de contrat et qu'on ne lui ait rien proposé. Je pense qu'il a vrillé.
Vexé, alors.
Thomas Tuchel, il est vexé. Non. Après la saison historique du club pour les 50 ans, c'est quand même la meilleure saison, puisqu'ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Alors, est-ce que c'est la meilleure saison? Ils ont quand même gagné une Coupe d'Europe avec 96. Est-ce que c'est la meilleure saison? Mais en tout cas, c'est pas mal. Peut-être que Michel Denisot serait pas content qu'on dise ça. Parce que peut-être que gagner une Coupe d'Europe, c'est mieux.
Mais c'est vrai que Tuchel disait, je pensais qu'avec la saison que je viens de te faire, et 4
jours, il est vexé et qu'on est en train de le perdre.
Si vous mettez à sa place, vous pouvez comprendre son raisonnement. C'est vrai que c'est quand même rare d'avoir un tel succès, c'est un succès, et de ne pas avoir de proposition de contrat. Donc, ce qu'on sait tous, à savoir que Leonardo, notamment, veut que ça s'arrête en juin, il le sait aussi. Mais
ce qu'il faut mettre sur la table, ce sont les résultats quand même, sa façon de coacher l'équipe, la façon de faire tourner
les effectifs. Les résultats l'été dernier, excusez-moi, il a tout gagné, il a fait une finale de Ligue des Champions, c'est
la
difficile.
Nouvelle saison.
Non, mais moi je trouve que l'équipe, je trouve qu'il a perdu, entre guillemets, la raison tactique.
Le sens commun.
J'essaye de faire gaffe, j'ai rajouté tactique après la raison. Quand il a travaillé pendant 2 mois sur un système de jeu et qu'il arrive à Dortmund, il fait l'inverse de ce qu'il avait préparé. Pour moi, c'est fini. Mais bon, donc quand il n'y a plus de cohérence. Mais moi je pense que ce club est inentraînable. Tant que ce club ne sera pas dirigé par un homme fort qui a du pouvoir, puisqu'on se rend compte que Leonardo n'a même pas le pouvoir de diriger, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas entraîner ce club. Neymar est plus fort que l'entraîneur. Alors vous allez me dire Messi à Barcelone aussi, mais enfin Messi a fait gagner des choses. Mbappé est plus fort que l'entraîneur. Vous sortez Mbappé à la 88e minute, c'est un problème.
En fait,
vous
ne pouvez pas gérer ce club. Sur le plan sportif, ce club n'applique pas les méthodes qui fonctionnent, qui sont appliquées sur le plan administratif par exemple, et de la construction sur le long terme. Carl Olive l'évoquait tout à l'heure sur le projet du centre d'entraînement. Jean-Claude Blanc a ce projet en main depuis des années. Il va arriver à son terme et ce sera un modèle. Ce qu'a fait le Paris Saint-Germain sur le plan marketing, merchandising en France et à l'international est absolument remarquable.
Parce qu'un club, Philippe, se dirige du pays où il est. C'est-à-dire que le club Paris Saint-Germain, il est français, donc il doit se diriger de France. Or, Nasser Al-Khelaifi, avec tout le respect qu'on a pour lui, il est dépendant de l'émir du Qatar, qui est le propriétaire du club, qui donne l'argent et qui prend les décisions. Il a nommé entraîneur, par exemple, Tuchel, c'est l'entourage de l'émir. Leonardo a été rappelé par l'émir et son entourage. Donc, c'est un problème parce que soit l'émir, il vit en France, il préside le Paris Saint-Germain, c'est très clair, mais évidemment, il a autre chose à faire, il est émir du Qatar. Soit Nasser Al-Khelaifi est un président opérationnel.
Mais il y a des clubs dirigés par des pays ou par des fonds, etc., qui sont à l'étranger et qui sont mieux gouvernés que cela. Manchester City, on peut leur reprocher plein de choses, mais c'est quand même mieux géré. Il y a des hommes qui sont à leur place et qui décident.
Car le PSG est inentraînable, comme le dit Sébastien Tarrago.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, un club mieux géré qu'un autre. Si tous les clubs étaient gérés, que chaque saison, on peut faire une finale de Ligue des Champions, je pense qu'en France, on peut s'en féliciter. Alors moi, je ne suis pas l'avocat du Paris Saint-Germain. Je vous écoute toutes les semaines, parce que j'aime cette maison. J'ai quand même noté, il y a 3-4 semaines, vous aviez relevé quelque chose que je partage. C'est quand même le marathon des calendriers. Pardon, mais un match sans Mbappé, sans Neymar et sans Icardi, c'est pas la même chose que ce qu'on a vu typiquement mercredi. Ce qui n'enlève rien, un match mal mené, etc., etc. Il faut quand même dire les choses. Ce qui nous en revient, ce qui revient à ce qu'on disait en début d'émission, messieurs, c'est-à-dire qu'on a quand même aussi des conditions de calendrier, de match, de rythme, qui fait que c'était écrit, et vous l'aviez dit ici, à la fin du mois d'août, c'était écrit qu'à un moment donné, vous pétez les ischios, vous pétez un mollet, etc., parce qu'il n'y a pas le temps suffisant de récupération.
Julien Stéphane, l'entraîneur du Stade Rennais, au bout de son rêve de Ligue des Champions pour disputer les huitièmes de finale.
Je pense qu'il n'a jamais visé autre chose que la troisième place, et ça reste encore accessible malgré tout. Je pense pas qu'il a imaginé un instant se qualifier. Et puis là, alors c'est l'éternelle histoire du club qui joue pour la première fois Ligue des Champions et qui se fait avoir. On n'a pas le droit d'y renfler, mais ils se sont fait avoir.
Si on avait eu un peu de temps, on aurait parlé de la vidéo, c'est ça que vous voulez dire?
Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Non, tout le monde sait qu'il n'y a pas main.
Il n'y a que ça, on est obligé de se réfugier derrière ça?
Non, il n'y a pas que ça.
Krasnodar, ça ne gagnait pas le match contre Krasnodar déjà à domicile.
C'est vrai, c'est vrai. Et à Séville, il n'y avait aucune intention de jouer.
Vous savez, Julien Stéphane, il ne s'en cache pas. Il est en train de vivre effectivement ce qui était prévisible. C'est un match tous les 3 jours et un match de haut niveau tous les 3 jours, un match à enjeu tous les 3 jours. Et simplement, ses joueurs ne sont pas habitués à cela. Son équipe, elle est encore jeune et ses joueurs, ils ont besoin de s'entraîner et ils ne s'entraînent plus parce qu'ils enchaînent de la récupération et des matchs.
Et on va terminer en moins de 2 minutes par le meilleur. Lille, alors c'est le succès d'un club, c'est le succès de Campos, le directeur sportif et donc du recrutement de son président Gérard Lopez ou de l'entraîneur Christophe Galtier.
Non, la seule chose, c'est que oui, voilà.
Un peu de tout, sauf peut-être Lopez, qui pour moi est un booster dans le football.
Ouais, mais
Campos, lui, c'est.
Ouais, mais bon, c'est Lopez qui a choisi Campos.
Oui.
À un moment, il est responsable de cela.
J'espère que c'est.
Après,
lui.
Attention, c'est un gros bazar dans le club parce que Campos agace beaucoup de gens. Mais la seule chose, quand même, qui m'a beaucoup agacé cette semaine, c'est que j'ai entendu que Christophe Galtier était donc l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe désormais. Ok.
Ça vous a un peu agacé.
Non, mais c'est ridicule. C'est-à-dire que mettez Christophe Galtier à l'Olympique de Marseille, est-ce qu'il va faire mieux que Villas-Boas?
Non.
Mettez Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il va faire mieux que Thomas Tuchel? Je n'en suis pas sûr.
Mais il mettra Marquinhos en défense.
On verra. J'en sais rien. Je sais pas. Mais franchement, soyons juste sérieux sur les entraîneurs, parce que un jour, on explique que c'est les nouveaux Guardiola, et puis après, on dit qu'ils sont nuls. C'est pas ça.
Tu l'as cité, Guardiola, il a vampirisé le truc. Ça fait maintenant 5-6 ans que le foot n'est vu que par le prisme de l'entraîneur.
Messieurs, fin de ce, on fait le match raccourci, rapide, je le rappelle. Et oui, c'était rapide, mais c'était surtout intéressant. Et c'est pour ça, peut-être, que ça donne l'impression d'une plus grande rapidité. Grâce notamment à l'expertise, aux informations et au coup de gueule poussé par Karl Olive. Merci, Karl.
Un très grand merci pour votre invitation.
Et vous êtes le bienvenu, vous le savez, dans cette vénérable maison, Karl Olive. Merci, bonne continuation avec donc notamment le Paris Saint-Germain et son centre d'entraînement qui va s'installer dans les Yvelines. Merci à vous. Merci Dominique Sévrac.
Merci à vous.
À très bientôt. Merci Sébastien Tarrago. Merci Philippe Sanfourche. Merci à la réalisation Damien Béchiot et également à l'ami Baptiste Durieux. Merci à vous tous de votre fidélité. Derrière la publicité et les informations de 20h, RTL Foot, 20h-23h avec Silvestro, Castaldi, Domergue et Vasselin. Très bonne soirée.